Je crois qu'il nous est tous arrivé de passer par ce que l'on appelle un désert spirituel. Ils sont souvent imprévus, ils sont toujours éprouvants. Les mots pour décrire cet état ne manquent pas. Désert spirituel, sécheresse, aridité, stérilité, tunnel. Comment faire ? Comment faire pour surmonter cet état de déprime spirituelle ? Ce n'est pas une question évidente, et en particulier lorsque l'on se trouve en plein milieu de ce désert. Je suis reconnaissant que la Bible donne bien des exemples de sécheresse spirituelle. Je vous invite à lire ce matin le psaume 42 et le psaume 43. Dans ces deux psaumes, nous trouvons formulé le cri d'un chrétien qui ne sent plus, qui ne ressent plus la présence de Dieu. Psaume 42 et psaume 43, c'est à la page 656 des Bibles bleues que vous trouverez sur les bancs devant vous. Au chef de chœur, cantique des descendants de Corée. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ? Mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu ? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Mon âme est abattue en moi. Aussi, c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitzéar. L'abîme appelle un autre abîme au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. Le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ? Mes os se brisent quand mes persécuteurs m'insultent et me disent sans cesse « Où est ton Dieu ?» Pourquoi être abattu, mon âme ? Et pourquoi gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 43. Rends-moi justice, ô Dieu. Défends ma cause contre une nation infidèle. Délivre-moi des hommes trompeurs et criminels. Toi, mon Dieu protecteur, pourquoi me repousses-tu ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ? Envoie ta lumière et ta vérité, qu'elles me guident et me conduisent à ta montagne sainte et à ta demeure. J'irai vers l'autel de Dieu, vers Dieu ma joie et mon allégresse, et je te célébrerai sur la harpe, ô Dieu, mon Dieu. Pourquoi être abattu, mon âme ? Et pourquoi gémir en moi ? Espère en Dieu, car je le louerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu. Dans certains manuscrits hébreux, ces deux psaumes, psaume 42 et 43, n'en font qu'un. Et entre autres, le refrain du psaume 42 se retrouve dans le psaume 43, d'où la lecture commune de ces deux psaumes. Le psaume 43 est probablement une réflexion un petit peu plus tardive sur le psaume 42. Par son auteur. Comme une biche soupire après des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Je crois que ce premier verset est rarement compris comme il devrait être. À la première lecture de ce verset, peut-être comme moi, vous vous imaginez un cerf, tel Bambi entouré de soleil et de papillons, en train de boire l'eau d'une jolie petite rivière. Mais ce n'est pas du tout ce que dit le texte. Au contraire même. Il est dit comme un cerf soupire, pas comme un cerf boit l'eau des ruisseaux. Il soupire. Et ce n'est pas pareil. Le mot utilisé ici, traduit par soupirer, renvoie au manque, renvoie à ce désir, à cette soif que le cerf n'arrive pas à étancher. Si le cerf soupire, c'est parce qu'il lui est impossible de boire. C'est parce qu'il n'y a plus d'eau dans le ruisseau où il boit habituellement. Il soupire après l'eau du ruisseau, cela veut dire que lui manque les temps où il pouvait boire l'eau de ce ruisseau. Cette biche est assoiffée, elle est au bord de la mort. Elle regarde au ruisseau desséché et regrette les temps où ce dernier lui donnait ce dont elle avait besoin. C'est une image triste qui est utilisée ici. Une biche au bord de la mort parce que la rivière qui lui donnait son eau ne la donne plus aujourd'hui. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Voilà l'image qu'utilise le psalmiste ici. J'ai soif de toi, mon Dieu. Mais je ne trouve plus d'eau dans ton ruisseau comme auparavant. Le psalmiste utilise cette image du cerf qui soupire pour parler de sa sécheresse spirituelle. Il passe par une sécheresse spirituelle importante. Ce n'est pas qu'il doute de l'existence de Dieu, preuve en est qu'il se tourne vers Dieu. Mais il n'arrive plus à sentir sa présence, il n'arrive plus à trouver Dieu. Hier, je sentais encore ta présence, j'entendais tes paroles, je voyais ta face. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas, et je soupire après ces choses. Verset 4, mes larmes sont ma nourriture jour et nuit, car on me dit sans cesse, où est ton Dieu ? Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Je n'arrive plus à sentir ta présence, je n'arrive plus à entendre ta voix, je n'arrive plus à voir, à goûter ta fidélité, alors qu'hier encore, je le pouvais. Alors que tu étais comme un oasis dans ma vie, mon cœur est maintenant comme asséché par le soleil. Le psalmiste ne doute pas ici de l'existence de Dieu, mais il n'arrive plus à sentir sa présence comme auparavant. C'est ce qu'il dit tout au long de ses psaumes. Psaume 42, verset 7, « Mon âme est abattue en moi. Aussi c'est à toi que je pense depuis le pays du Jourdain, depuis l'Hermon, depuis le mont Mitzéar. L'abîme appelle un autre abîme, au fracas de tes cascades. Toutes tes vagues et tous tes flots passent sur moi. » Mon âme est abattue. Un abîme en appelle un autre. Tous tes flots ont déferlé sur moi. Le psalmiste est au fond du trou. Mon âme est abattue. Ces saisons de sécheresse affligent hommes et femmes de Dieu à travers la Bible. C'est une expérience courante et de manière surprenante, en particulier chez ceux qui ont une relation très intime avec le Seigneur. Ainsi, nous voyons l'exemple d'Élie, juste après la manifestation glorieuse du pouvoir de Dieu sur la terre. Nous voyons Élie entrer dans une déprime spirituelle. Et c'est bien à l'heure où bénédictions et révélations se multipliaient dans sa vie que le grand prophète plongea dans le désespoir. Nous avons l'exemple du peuple de Dieu qui affirme, malgré à la fidélité de Dieu à leur égard, il aurait mieux valu pour nous mourir au pays d'Égypte, Exode chapitre 16. Nous avons l'exemple de Daniel après sa vision des temps de la fin, qui dit, Daniel 10, verset 8, « Je demeurai donc seul à contempler cette apparition grandiose. J'en perdis mes forces, je devins tout pâle, mes traits se décomposèrent, je me sentais défaillir. » Tout comme nous connaissons tous des oasis spirituelles, des moments où nous ressentons tout particulièrement la présence de Dieu, tous, à un moment donné, nous passerons par un désert spirituel. Dans notre vie chrétienne, tout n'est pas toujours vert, tout n'est pas toujours oasis. Dans nos prières, dans nos lectures bibliques, dans notre marche avec Christ, il y aura des moments où nous ne ressentirons plus la présence de Dieu, où nous ne ressentirons plus de joie, des moments où tout deviendra comme sec, au point où nous soupirerons auprès de Dieu en lui disant « J'ai soif de toi, mon Dieu. Pourquoi n'arrive-je pas à te trouver aujourd'hui ? Je soupire après cette relation que j'avais avec toi auparavant. Je soupire après toi, ô mon Dieu. » Je suis vraiment reconnaissant pour ces psaumes 42 et 43 et pour tous les passages où nous trouvons des cas de sécheresse spirituelle. Cela nous montre quelle est, d'une certaine manière, normal. Si vous passez par ces moments difficiles spirituellement, ne culpabilisez pas. Vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas les seuls à passer par ces moments. Tous nous passerons un jour ou l'autre par des déserts spirituels. Si Moïse, David, Daniel, Élie sont passés par là, ne soyons pas surpris si c'est aussi notre cas un jour ou l'autre. Il y a des moments où notre vie spirituelle sera comme aride, comme desséchée, des moments où l'on se sent comme étant abandonné de Dieu. Avant de regarder à l'attitude qu'il nous faut avoir dans ces moments-là, regardons tout d'abord aux causes de cette sécheresse spirituelle. Qu'est-ce qui peut nous amener dans cette sécheresse ? D'un point de vue spirituel, le monde dans lequel nous nous trouvons, marqué si souvent par une consommation effrénée, par l'indifférence religieuse, par une banalisation des péchés, peut nous amener dans cette sécheresse spirituelle. Qu'il peut être difficile de ressentir la présence de Dieu lorsque nous connaissons l'indifférence, la moquerie, le rejet. Ainsi, David va passer par une aridité spirituelle à cause de la méchanceté des hommes. Psaume 142, verset 4. « Quand mon esprit est abattu en moi, c'est toi qui sais sur quel sentier je marche. Sur mon chemin, ils m'ont tendu un piège. Regarde à droite, il n'y a plus personne, pas même un seul qui veuille me connaître. Je ne sais plus où chercher un refuge et nul ne veut s'inquiéter de ma vie. » La méchanceté des hommes va amener David dans des moments durs spirituellement. Le péché des autres peut donc nous amener dans cette sécheresse spirituelle, mais aussi tout simplement notre péché à nous. Dans de nombreux psaumes, si le psalmiste n'arrive plus à ressentir la présence de Dieu, c'est à cause de son propre péché. Nous voyons bien cela dans le psaume 51, par exemple, psaume que David a rédigé après qu'il eut péché avec Bathsheba. S'il ne ressent plus la présence de Dieu, c'est parce que le péché dans son cœur l'en empêche. Dans notre vie spirituelle, on se retrouve parfois dans un désert à cause de nos propres inconséquences. Ainsi, lorsque l'on ne prend pas garde à la parole de Dieu et à ses avertissements, on donne accès à l'adversaire qui va nous éloigner de Dieu. Le péché, notre péché, va nous éloigner de Dieu. Et trop souvent, nous nous étonnons de cela. Ainsi, nous désobéissons à Dieu et ensuite nous sommes surpris que nous ne ressentions plus sa présence. Oui, clairement, l'adversaire, par le péché, va chercher à nous éloigner le plus possible de Dieu et va nous faire croire que c'est Dieu qui s'est éloigné, alors qu'en réalité c'est nous-mêmes. Notre péché va nous empêcher de voir Dieu comme il est, de ressentir sa présence. Revenons à notre texte. Ce qui est surprenant, c'est qu'ici, dans le psaume 42, dans le psaume 43, cette sécheresse spirituelle ne semble pas liée à un péché en particulier. Le psalmiste fait mention de ses ennemis au verset 11, mais cela ne semble pas être la raison première de son état. C'est quelque chose qui s'y rajoute. Ce n'est pas le péché la raison première de ce désert spirituel. Et j'insiste bien sur la raison première de ce désert. Avant la chute, Adam et Ève n'ont pas connu ces moments-là. Ces moments-là sont bien la conséquence du péché. Et c'est donc, d'une certaine manière, bien le péché à l'origine de ces moments-là. Ceci étant dit, ce n'est pas un péché en particulier ici qui en est la cause. Le psalmiste n'a pas de poutre dans son œil. Il n'a pas commis de péché qui l'empêcherait de voir, de discerner Dieu dans sa vie. Mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu oublié? Il semble bien ici que ce désert spirituel ait été comme créé par Dieu lui-même. Et cela est bien plus difficile à admettre. Nous comprenons plus facilement le désert qui a pour but de nous reprendre pour nos fautes et pour nos manquements. Parce qu'alors nous pouvons faire quelque chose pour y remédier. Mais lorsque nous vivons des expériences spirituelles douloureuses, alors que nous n'avons rien fait de mal, ces questions sans réponse surgissent. Pourquoi m'ignores-tu, Père ? Pourquoi m'as-tu oublié ? Alors que faire ? Que faire lorsque l'on se retrouve dans ce désert spirituel ? L'auteur de ce psaume passe, me semble-t-il, par trois étapes importantes. Il y a trois choses qu'il fait pour sortir de ce désert spirituel. Tout d'abord, il ouvre son cœur à Dieu. Il ouvre son cœur à Dieu. Puis il se rappelle la grâce. Et finalement, il parle à son cœur. Il ouvre son cœur à Dieu par la prière. Versets 2 et 3, tout d'abord. « Comme une biche soupire auprès des cours d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand donc pourrais-je me présenter devant Dieu ?» Verset 10, « Je dis à Dieu, mon rocher, pourquoi m'as-tu oublié ? Pourquoi dois-je marcher dans la tristesse sous l'oppression de l'ennemi ?» Il ouvre son cœur à Dieu. Il est merveilleux de voir comment l'auteur de ce psaume ouvre son cœur à Dieu par la prière. Il vient aux pieds de Dieu et lui ouvre son cœur. C'est ce qu'il fait tout au long de ces deux psaumes. Lui qui ne ressent plus la présence de Dieu, que fait-il ? Il se tourne vers Dieu, il prie Dieu, il lui apporte ce sujet qui lui pèse tant. Quelle discipline ! Quelle persévérance, n'est-ce pas ? Lui qui ne reçoit plus rien de la parole de Dieu, lui qui ne reçoit plus rien de la prière, il prie Dieu en apportant ce lourd fardeau. Il prie Dieu. Si comme le psalmiste, vous ne ressentez plus la présence de Dieu dans vos lectures bibliques, dans vos prières, voilà ce qu'il vous faut faire. Tout d'abord, priez Dieu. Apportez ce fardeau à Dieu. Ce n'est pas facile à faire. Ce n'est pas facile à faire. Mais il est nécessaire de le faire. C'est ce que Dieu souhaite, que nous nous tournions vers lui. Si vous ne trouvez plus Dieu, alors priez Dieu. Priez qu'il se révèle à vous de nouveau. Priez-le en disant ce que le psalmiste dit ici. J'ai soif de toi, mon Dieu. J'ai soif de toi. Il se tourne vers son Dieu. Nous n'avons pas à craindre d'apporter ce fardeau à Dieu. Ce qu'il souhaite, c'est que son peuple se tourne vers lui dans l'abondance comme dans la sécheresse spirituelle. Il souhaite que son peuple se tourne vers lui. Le psalmiste ouvre son cœur à Dieu. Il se souvient ensuite de la grâce de Dieu, verset 5. Je me rappelle avec émotion l'époque où je marchais entouré de la foule, où j'avançais à sa tête vers la maison de Dieu, au milieu des cris de joie et de reconnaissance d'une multitude en fête. Verset 9, le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais ma prière au Dieu de ma vie. Le psalmiste se souvient des bienfaits de Dieu à son égard. Il se souvient des bienfaits de Dieu. Lorsque nous passons par des épreuves, par des temps spirituellement durs, faisons attention de ne pas critiquer Dieu. Mais au contraire, regardons à ce que Dieu a déjà fait. Regardons à ses promesses. Nous avons un avantage énorme par rapport aux auteurs de ces deux psaumes. Un avantage énorme. Nous avons vu le plan de Dieu en Jésus-Christ. C'est un avantage énorme, un privilège. Un privilège. Nous savons aujourd'hui comment Dieu a prévu de sauver l'être humain. Par Jésus-Christ, nous sommes sauvés. Si nous doutons de Dieu, de sa bonté, de sa présence, alors regardons à la croix. Regardons à la croix. Si le Père est allé jusqu'à donner ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, sur la croix, croyez-vous vraiment qu'il va vous abandonner maintenant ? S'il devait changer d'avis, il l'aurait fait il y a bien longtemps. Lorsque nous passons par des moments où nous ne trouvons plus Dieu, regardons à la croix. Regardons à la croix. Et regardons à tous ces bienfaits manifestés pour nous tout au long de notre vie. Notre cœur, par nature, est prompt à se plaindre. Comptez les bienfaits de Dieu. Je crois que c'est là maintenir une perspective qui plaît à Dieu. Naturellement, et cela à cause de notre nature pécheresse, nous avons tendance à nous appesantir sur nos problèmes. Eh bien, au contraire, énumérons-nous tous ces bienfaits. Souvenons-nous de tous ces bienfaits à notre égard. Regardons à la croix. Regardons à la croix. Gravons cette vérité dans nos cœurs. Gravons cette vérité dans nos cœurs. Pourquoi être abattu, mon âme, et gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Verset 12, pourquoi être abattu, mon âme? Pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Psaume 43, verset 5. Pourquoi être abattu, mon âme? Pourquoi gémir en moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Je trouve magnifique de voir comment le psalmiste parle ici à son cœur, à son âme. Il grave cette vérité de la bonté de Dieu, de sa présence. Il grave cette vérité dans son cœur. Il parle à son cœur. Pourquoi es-tu abattu, mon âme? Mets ton espoir en Dieu. Mets ton espoir en Dieu. C'est lui mon salut. C'est lui mon Dieu. Après s'être souvenu de la grâce de Dieu à son égard, il s'encourage lui-même à célébrer Dieu et ses bienfaits. Il s'encourage lui-même. Je trouve ce point particulièrement intéressant. Et je crois qu'il y a là un élément important à comprendre si nous voulons sortir de notre sécheresse spirituelle. Si le psalmiste est aussi abattu, c'est justement parce qu'il écoute son cœur. Il ne ressent plus la présence de Dieu. Et au plus profond de son être, il se demande pourquoi. Au plus profond de son cœur, il se demande pourquoi Dieu l'ignore, pourquoi ne réponds-tu pas, pourquoi n'arrive-je pas à sentir ta présence? La clé, ce n'est pas écouter son cœur, mais c'est parler à son cœur. Parler à son cœur. Et j'insiste bien là-dessus, parler à son cœur à la vue de la grâce de Dieu. À la vue de la grâce de Dieu manifestée à son égard, le psalmiste se prend en main et dit à son cœur, « Mets ton espoir en Dieu. Mets ton espoir en Dieu. » Et ce n'est pas forcément évident à percevoir dans nos traductions françaises, mais il y a une progression dans la pensée du psalmiste. Ainsi, au verset 6, il est dit, « Mets ton espoir en Dieu. Je le louerai encore car il est mon sauveur. » Sous-entendu, « Je vais le louer parce qu'il est mon sauveur. » Et au verset 12, ainsi qu'au psaume 43, verset 5, il loue dès à présent Dieu. Mets ton espoir en Dieu, je le loue aujourd'hui, mon Sauveur et mon Dieu. Je le loue aujourd'hui. Entre le début et la fin du psaume, il y a une progression. L'auteur de ce psaume parle à son âme, il parle à son cœur, il regarde à la grâce de Dieu manifestée à son égard. Il parle à la partie la plus intime de son être. À la vue de la grâce de Dieu, il s'encourage à louer le Seigneur. Lorsque notre cœur nous amène à douter de la bonté de Dieu, nous amène à douter de sa présence, opposons à notre cœur les vérités bibliques. Opposons la croix à notre cœur. Oui, Dieu nous aime. Oui, il est présent. Non, jamais il ne nous abandonnera. La croix en est la preuve par excellence. Si vous êtes actuellement dans un de ces déserts spirituels, suivez l'exemple du psalmiste. Tournez-vous vers Dieu. Confiez-vous en lui. Souvenez-vous de sa grâce manifestée pleinement en Jésus-Christ. Et parlez à votre cœur. À votre âme. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.